C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, qui cultive les bons morceaux du Finistère. C'est le printemps, on s'en va au jardin en compagnie d'une amie, Marie Cultive, qui nous aide à nous adapter.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine avec de jolis coins de Finistère. Jolis comme vos jardins. Mais qu'est-ce qu'on appelle un joli jardin? Eh bien, certaines et certains verraient un gazon tondu à ras, sans une herbe qui dépasse, un talus couvert d'une bâche plastique parce que ça fait propre, une terrasse en béton, des fleurs exotiques en massif, bien disciplinées. Ben nous pas, sur Transistor. On vous le dit tout net, le jardin propre, c'est moche, c'est mort et surtout c'est idiot. Idiot comme de la peinture verte qu'on vient mettre sur les pelouses en Californie parce qu'il fait trop sec. Je vous jure, ce n'est pas une infox, des entreprises font ça. Nous, on a invité Marie Cultive pour qu'elle nous redessine un jardin plein de vie, même quand il aura trop plu ou pas assez, ou qu'il fera trop chaud, trop tôt, ou qu'il y aura beaucoup de tempêtes. Enfin bref, avec Marie Cultive, on s'adapte, on adapte son jardin au climat comme il va, on construit un jardin robuste. Bonjour Marie.
Bonjour Véronique.
J'ai tout bien dit comme il faut.
Ouais, c'était super, c'était super.
Alors, on ne sait pas trop par où commencer. On va commencer, je suppose, par l'observation de son jardin. C'est ça, avant de l'adapter, on va l'observer, c'est ça?
Non, mais exactement. On dirait que t'as lu mes notes.
On se connaît bien à force.
Bah ouais. Alors, comment ou que savoir sur son jardin avant de l'aménager, de le transformer? Comme je le dis depuis de nombreuses années, le jardin, c'est un lieu qui est en permanent mouvement, en évolution constante.
C'est vivant, un jardin.
Voilà. Exactement. Et donc, du coup, c'est hyper important quand on arrive dans un lieu de s'imprégner de ce lieu, de l'observer, l'exposition au soleil, mais aussi au vent, aux pluies, au vent dominant, quoi.
Sud-ouest, on va dire, en gros, quoi. C'est ça, les vents dominants chez nous.
Ouais, souvent, c'est assez ça. On a un peu de sud-sud, mais bon, c'est quand même assez rare.
Un peu d'ouest aussi, évidemment, mais bon, ouais.
Plein ouest. Donc, du coup, c'est hyper important de s'imprégner de ça, de vraiment prendre le temps d'observer aussi les plantes qui poussent.
Naturellement, enfin, celles qui poussent toutes seules, quoi.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Les ressources dont on peut disposer aux alentours. Et d'essayer d'éviter au maximum d'aller piocher dans les grandes inspirations du moment, qui sont plutôt les jardins méditerranéens, jardins très minéraux en fait.
Oui.
Des jardins épurés, donc avec le moins de plantes possible.
Ça, c'est parce que les gens n'ont pas le temps de l'entretenir.
C'est ça. Mais en fait, ça va dépendre aussi de la représentation qu'on a d'un jardin.
Aussi,
et d'un
sûr.
Jardin propre, comme tu l'as si bien expliqué juste avant. Donc, avant de se lancer tête baissée dans l'aménagement de son jardin, c'est plutôt de se poser des questions. Comment et où je suis? En fait, qu'on soit en campagne, en ville, on ne dispose pas des mêmes ressources, on ne dispose pas des mêmes surfaces.
Et oui, déjà, oui, c'est sûr.
C'est-à-dire qu'on va éviter en ville d'avoir plein de haies, pour éviter d'avoir des trajets à la déchetterie, parce qu'on ne dispose pas d'un espace de stockage pour mettre ces tailles de haies quelque part.
Ou alors des haies qui poussent lentement.
Oui, aussi.
Vraiment.
Ouais, tout à fait.
Comme du buis, enfin des trucs qui sont vraiment gérables.
Il y a vraiment l'embarras du choix sur les plantes.
On va voir ça plus tard, mais
tout
oui,
à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Est-ce qu'on va jusqu'à examiner la nature de son sol?
Ça peut, parce que du coup, si vous avez un sol très très pauvre, à savoir si vous venez de faire construire votre maison, et que du coup vous avez beaucoup de remblais sur votre terrain, ça va avoir son importance. On va éviter de mettre des plantes de terre de bruyère qui ont besoin d'un sol très 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 riche, ou en tout cas, on va se dire, je vais mettre des plantes de terre de bruyère, mais dans quelques années.
C'est ça,
tout de suite. On va améliorer la structure de son sol petit à petit. On peut partir bille en tête et en se disant, je vais faire venir des camions avec des mètres cubes de terre.
On peut
le faire. Ça va vous coûter une énergie de dingue et beaucoup de sous,
faut
pas se mentir.
Ouais.
En plus d'avoir un petit manque de sens quand même.
Oui, C'est ça, oui.
Parce que si on fait ramener, si on fait importer des mètres cubes de terre dans son jardin, c'est quand même, ils viennent de quelque part.
C'est ça, donc, ouais, bon. Ouais, tout à fait.
Donc voilà.
Donc on regarde son sol, donc les ressources alentour, les contraintes de type. Alors bon, le truc c'est que déchetterie, enfin déchets verts, on en a déjà parlé, mais c'est pareil. Enfin, peut-être qu'on peut avoir des haies même en ville, mais ça veut dire qu'on va gérer ces tailles de haies dans son jardin. Enfin, on va les recycler dans son jardin.
Ouais, exactement.
C'est ça, faut le savoir.
Exactement.
Quoi.
Mais ça, c'est vraiment le sujet. Hyper important en ce moment, beaucoup de collectivités à mettre ça en place, des accompagnements auprès de foyers ou de la sensibilisation directement en déchetterie par rapport à ça.
Et puis il y a les interdictions d'apporter sa tonte de gazon ou de choses comme ça aussi, ça commence. S'il y a des déchetteries où on commence.
Fait, c'est vrai. Ouais, voilà. Il y a quelques endroits où ça se fait parce qu'ils n'arrivent plus à gérer les déchets verts en fait.
On peut aller voir ses voisins pour voir si ça les intéresse aussi. Parce que nous, personnellement, ça nous intéresse d'avoir les tontes de gazon de nos voisins. Mais ils ne le savent pas. En fait, ils mulchent. Bon, voilà, après...
C'est déjà une bonne chose aussi de mulcher. Hein.
C'est tondre en laissant le gazon sur place.
Tout à fait.
C'est ça.
Exactement. Bon. Exactement. Donc, il y a des tondeuses spéciales, hein, mulch, qui coûtent plus aussi cher par rapport à une tondeuse classique. Mais bon, si on n'a pas de tondeuse à changer... On peut tondre en mulching avec sa tondeuse classique, c'est-à-dire qu'on ne met pas le bac. Mais
et,
ouais.
Et puis aussi, on observe son emploi du temps personnel, c'est-à-dire que, voilà, de quel temps on a envie de disposer pour son jardin. Enfin, je ne sais pas si on peut évaluer en fonction de la surface le temps à passer au jardin. Est-ce que ça existe ?
Non, parce que ça, c'est très aléatoire.
Et personnel.
C'est très personnel, ouais. Parce que ça va encore dépendre de, du conditionnement dans lequel on a évolué. C'est-à-dire que moi, je peux avoir 2000 mètres carrés de jardin et ne pas y mettre les pieds des fois pendant 3 semaines parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu autre chose à faire. Et des gens qui ont 500 mètres carrés de jardin et qui, eux, ça va être 3 fois par semaine à aller au jardin. Donc, on ne peut pas évaluer ça. Et puis, ça va dépendre aussi des plantes qu'on a. Ça va dépendre si on a un potager ou non. Ça va dépendre... de l'envie, quoi. Il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément
oui, c'est
le
ça.
Jardin.
Oui.
Mais je pense quand même que c'est très important d'être conscient de ça. De se dire, si je veux un jardin à l'anglaise, j'ai besoin d'à peu près tant de temps. Si je veux un jardin taillé au cordeau, j'ai besoin d'à peu près tant de temps. Et si je veux un jardin... plus du style sous-bois, nature, j'ai quand même...
Jardin-forêt, comme on dit.
Ouais, voilà, j'ai besoin de tant de temps. C'est bien important d'être aligné là-dessus.
Ouais.
Parce que sinon, ça crée de la frustration.
D'accord. Bon. Alors, on parlait d'examiner les ressources alentour. Et parmi les ressources capitales, il y a bien sûr l'eau. Comment est-ce qu'on... Alors, nous, on a eu... Là, on en a eu plutôt trop cet hiver. On a eu vraiment des grosses pluies. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'aménagement, cette fois, de son jardin, le choix des essences ou autre chose, hein, pour que le sol ne se transforme pas en mare de boue voilà. Non, mais c'est vrai, y a des gens qui étaient désolés de ça.
En effet. Moi, j'ai cru que j'allais me transformer en grenouille cet hiver.
Tout le monde a cru.
Ouais. Je ne suis pas très soumise à la dépression saisonnière, mais c'est vrai que ça commençait à peser. On est très, très contents que ce printemps ressemble à un printemps. La première chose que j'aurais à dire, c'est arrêtons d'artificialiser les sols. Faut arrêter d'imperméabiliser les sols systématiquement, de goudronner, de bitumer, de tasser le sol. Faut qu'on se calme là-dessus. Parce que, en fait, le sol n'est pas fait pour ça. N'est pas fait pour supporter une aussi importante pression. Et donc, du coup, ça ruisselle, ça fait des mares. Voire, j'ai vu à certains endroits, des marécages.
Que c'était pas asphalté. Enfin, alors qu'il n'y avait pas d'asphalte, c'est ça.
Mais non, mais...
C'est juste la terre était trop tassée.
Oui, c'est ça. On tasse tellement le sol et on lui en demande tellement que, du coup, il n'arrive plus à assumer de telles quantités d'eau, quoi.
Et donc même un gazon, par exemple, ça peut être, c'est une artificialisation.
Quelque part, oui, parce que c'est, il y a intervention de l'être humain. Donc effectivement, on a eu particulièrement beaucoup de pluie. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Effectivement, moi, sur les essences d'arbres, je vais avoir tendance à faire confiance aussi un peu en la nature. Rien ne pousse par hasard. C'est-à-dire que si vous avez un endroit où vous avez beaucoup de saules, Si vous avez un endroit où vous avez pas mal de peupliers,
humide.
Vous allez avoir plutôt un terrain qui va être humide, qui va avoir une dominante humide. Donc du coup, ça ne sert à rien d'aller mettre des palmiers.
Enfin, voilà.
Ça n'a pas de sens de faire ça. Et donc du coup, pour éviter d'avoir un sol qui est marécageux, déjà aussi, il faut se détendre là-dessus. C'est des choses qui arrivent, ça arrive.
Sans doute arriver plus souvent.
Il y a des chances, vu la manière dont on vit. Mais en tout cas, c'est important aussi de se dire, le fond du jardin, s'il est détrempé, c'est OK, ça arrive.
Si c'est le fond, ça va, voilà.
Ouais, voilà. Ouais. Si ça rentre dans la maison, c'est plus compliqué.
Est-ce qu'on fait un fossé ? Enfin, est-ce que ça peut être une bonne idée ?
On peut tout à fait faire des talus, en fait, dans la nature. Alors là, du coup, ça dépasse un peu le champ d'action du particulier avec son jardin, mais refaisons des talus auprès des champs, refaisons des talus auprès des lotissements. Arrêtons de virer les talus tout le temps et les arbres qui s'y trouvent. Ça sert aussi à bloquer les pluies. Les arbres puisent dans le sol de l'eau et donc forcément viennent aussi réguler toutes ces pluies. Ouais. On a des plantes qui demandent beaucoup plus d'eau que d'autres. Je vous encourage, si vous avez un terrain plutôt humide, à vous pencher là-dessus, quoi. À vous concentrer sur des plantes qui vont avoir besoin de pas mal d'eau. Je dis pas que le jonc dans le jardin, ça fait toujours plaisir, mais fois...
C'est pas mal.
Moi, j'aime bien, ça permet de faire des petits tressages aussi.
On peut se lancer dans la vannerie après, une
fois
qu'on
a du jonc. Tout à fait, et puis il y a aussi des choses, faire des petites fascines. Donc les fascines, c'est du tressage d'osier vivant. Donc l'osier, c'est...
C'est du saule, en fait.
C'est du saule, exactement. Et donc, du coup, on va pouvoir faire du tressage pour faire des petites bordures ou pour faire des limites de propriété. Arrêtons de grillager, de barricader. Mettons du vivant.
Oui, c'est ça. On peut faire des haies très jolies. On va parler après des haies sèches, justement, pour les tailles.
Tout à fait.
Et alors, à l'inverse, d'autres secrets encore pour le ruissellement. Donc, les talus, c'est une bonne idée. Puis voilà, talus, ça s'aménage, ça peut être joli aussi.
Moi, je trouve qu'il y a de très, 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 très beaux talus. Vous pouvez tout à fait avoir des talus qui sont fleuris, 10 mois dans l'année.
Ouais, voilà.
11, sans problème, si vous organisez bien, si vous laissez la vie faire aussi.
Sans mettre des bâches plastiques dessus, s'il vous plaît.
Non, pitié, ouais. Parce que c'est pareil. Ça
on finit par les manger, les microplastiques. Non, mais c'est vrai, ils arrivent dans notre sang à la
évidemment.
Fin. Ou dans notre cerveau. Et à l'inverse, quand on manque d'eau, comment est-ce qu'on peut aménager son jardin, ou même son potager pour, on en a déjà parlé, on refait un point, prévenir les périodes là sèches.
Alors, il faut savoir que le fait qu'on se soit tapé 6 mois de pluie cet hiver, ressenti 12 mois de pluie, ne signifie pas qu'on ne manquera pas d'eau.
Mais non.
Ne signifie pas que les nappes phréatiques sont remplies et que du coup, on a fait du stockage invisible.
Bah, en fait, elles sont remplies, mais comme on a très peu de nappes phréatiques en Bretagne,
Donc, à partir de ce point de vue, ou de ce fait, on va se dire, si jamais il y a une sécheresse, ce qu'on ne nous souhaite pas, mais ce qui peut arriver, tout comme les pluies diluviennes. Eh bien, dans ce cas-là, je vous encourage à plusieurs choses. La première chose, c'est d'avoir des plantes qui supportent largement le manque d'eau, que ce soit en plantes ornementales ou en plantes potagères.
Alors quoi, par exemple ?
Plantes ornementales, on va avoir tous les sédums. On va avoir...
C'est des plantes grasses,
Petites plantes grasses qui sont très très jolies au demeurant. Ouais.
Et elles font des fleurs magnifiques.
Complètement. Ouais. Et puis en fait, on a un large panel.
Elles couvrent le sol.
Dire, on parle de bâches plastiques. On ne veut pas mettre de bâches plastiques. Je vous conseille donc de mettre du sédum.
Il y a des sédums, il y a différentes sortes de sédums,
Il y en a, je pense, au moins 15, 20.
En plus, franchement, ça ne coûtera pas forcément cher. Enfin, on peut demander à son voisin. Un petit échantillon de sédum et hop, le tour est joué. C'est vraiment facile.
Là, il y a les foires aux plantes qui vont s'organiser là, avec l'arrivée du printemps. Vous allez forcément trouver des gens qui donnent, troquent ou vendent à tout petit prix du sédum parce qu'eux en ont plein. voilà. Dans leur jardin. Donc on en a qui se couvrent de fleurs jaunes, ça dure 2-3 mois, en plus ça fleurit longtemps. On a des sédums qui font des fleurs roses.
Ouais, magnifique, moi j'en ai, ouais, c'est tellement beau.
Ah ouais, 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 c'est super. Mm. On peut avoir des plantes qui vont supporter les manques d'eau, les achillées, qu'on trouve beaucoup dans les jardins médicinaux, qu'on trouve aussi pas mal dans les gazons. On a des achillées, c'est une plante avec un feuillage très très découpé, gris bleuté, hyper beau et très gracile, quoi. C'est vraiment, on dirait, un peu comme des plumes.
Mmh, c'est vrai.
C'est très très beau. Et au bout de ce feuillage, on va avoir une hampe avec une inflorescence toute plate et plein de petites fleurs, donc de plusieurs couleurs différentes. Donc souvent, on les trouve blanches, mais on peut en avoir du rose, du jaune, un peu de toutes les couleurs. C'est des plantes qui supportent très très bien la sécheresse, qui supportent très très bien les embruns.
Donc, ah oui, si on habite en bord de mer,
c'est pas mal. Mmh. On va avoir tout un tas de plantes qui supportent la sécheresse. Hein. En arbuste, on va avoir des plantes telles le pittosporum. C'est une plante qui va faire des toutes petites feuilles panachées, qui est une plante persistante. Donc si on veut le mettre en isolé, donc en isolé dans un jardin, ça veut dire on le met seul, ou en plan de haie.
Ah oui,
il y a un bois noir, il est très beau ce bois noir. Quand je l'ai appris, il y avait écrit floraison insignifiante, ça fait de minuscules fleurs noires, magnifiques. Donc en fait, c'est pas si insignifiant que ça. On va avoir tout ce qui va être plant de haie, hein, de toute façon, le photinia, la griséline, qui supporte très très bien la sécheresse. Donc la griséline, c'est de plus en plus utilisé aussi comme plant de haie. Ça pousse relativement vite, ça a un feuillage tendre, c'est facile.
Ça garde ses feuilles l'hiver ou pas?
Ouais, aussi.
Ah, ça c'est bien pour une haie, ouais.
Tout à fait.
Et ça pousse assez vite, mais pas trop, enfin c'est ça, le rythme de pousse, c'est pas trop...
Bah, c'est-à-dire qu'il s'arrête à un moment donné.
Oui, c'est ça.
Donc c'est pas comme les lauriers palmes qui ne s'arrêtent jamais de pousser et qui deviennent immense, la gigantesque, qui colonise tout. Arrêtez avec le laurier palme.
Et le pire, c'est que je vois encore des gens qui plantent des haies de laurier palme.
Non, mais moi, je vois des gens qui plantent des bambous, hein, et on en aura pas assez parlé. Moi,
Ah, mais les bambous, alors ça, c'est sûr que si vous voulez une haie rapidement, les bambous, allez hop.
Non, mais en plus, voilà, c'est ça. Et puis, ça pompe l'eau, ça y va, ça.
Ah bah voilà, ça peut être intéressant. Ouais, en haut du jardin, on met des bambous.
Bah, quand on a un espace infini, quoi.
Oui, c'est ça. Bon, après, il y a des bambous qui ne repoussent pas, soi-disant.
Alors, ça, c'est une légende.
Ah,
hein.
Oui.
Ah oui. Oui, le bambou traçant, enfin non traçant, ne veut pas dire non invasif. Ça veut juste dire qu'il ne va pas faire des racines sur des dizaines de mètres, mais par contre, il va coloniser son espace petit à petit.
On peut l'utiliser, le bambou. On peut faire des treilles avec. Voilà.
C'est vrai qu'on peut faire un paquet
de choses. Des tuteurs, des choses.
Exactement. Voilà, exactement. Ouais.
Oui, c'est vrai.
Donc, ça, c'est la première chose, les plantes adaptées au manque d'eau. C'est assez rare, parce que je vois déjà des auditeurs qui me disent « Oui, mais si, on doit avoir des plantes qui résistent à la sécheresse et qui ont les pieds dans l'eau l'hiver. »
Comment ça fait ?
C'est rarement le cas. Un marécage se transforme rarement en désert.
C'est clair. Oui, parce qu'on a des parties plutôt où soit il y a des jardins qui sont secs intrinsèquement ou des jardins plutôt humides. Mais
c'est ça.
Voilà. Ou alors il y a des parties
quand on
a un très grand jardin.
Un beau jardin, grand jardin immense. Alors, contre le manque d'eau, souvent, ce qui souffre le plus quand même, c'est les gazons.
Bah oui, c'est ça.
Arrêtez de surtondre vos gazons. Mais ça, on en reparle tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure. Moi, j'ai toujours eu des superbes gazons, même quand il y avait des sécheresses. Et la dernière chose, c'est stocker l'eau, quoi.
Ben voilà.
Stocker l'eau. Bon, on est peut-être. Ouais, on n'est pas si tard pour le dire. Et de toute façon, il y a jamais. On n'est jamais trop tard pour le dire. Installer des récupérateurs d'eau, ou si vous faites construire une cuve enterrée pour l'eau. Récupérer l'eau de vos jardins ou de vos douches quand vous vous douchez et que
on appelle les eaux grises.
Ouais. Les eaux grises, ouais.
Et le fait qu'il y ait du savon, c'est pas embêtant?
Non, mais même avant ça, en fait, même avant ça, quand on attend que l'eau devienne chaude, un seau et du coup on récupère l'eau. Enfin, en fait, une journée dans le seau et elle est déchlorée, quoi.
Mmh. Oui, donc, bien sûr. Ouais.
On peut tout à fait arroser les plantes avec. Mais ouais, récupérez l'eau, s'il vous plaît. Et il y a même des collectivités qui remboursent tout ou en partie ou qui donnent des bons d'achat pour aller acheter un récupérateur d'eau.
Voir si vous avez de la surface, faites des mares avec les conseils de oui, Rivière de Bretagne.
Ah bah oui,
je dis ça.
Oui, oui, ça c'est clair, c'est clair. En plus, ils ont des super conseils. Enfin,
mais oui, bien sûr.
Non, ouais, faites des mares et en plus, on va attirer de la biodiversité. La biodiversité favorise aussi la pollinisation, favorise aussi le retour de la vie dans le jardin. La vie dans le jardin, ça fait toujours du bien à la nature. Enfin, la nature, elle est quand même très bien faite, normalement. Sans notre intervention, elle se débrouille très très bien.
Alors, il y a la question du manque d'eau, et puis il y a la question des canicules, quand il y a trop de soleil, voilà. Comment est-ce qu'on peut aménager son jardin pour avoir quand même des zones d'ombre, des zones de répartir la fraîcheur, la chaleur
Planter des arbres.
Voilà.
Planter des arbres, par pitié. Alors, vous pouvez planter des arbres, plutôt des essences locales, donc ce que j'encourage. Donc, tout ce qui va être chêne, châtaignier, hêtre, chêne vert, qui supporte très très bien la sécheresse, qui est une plante qui va garder son feuillage l'hiver. Donc, une plante persistante, comme ça.
Ça fonctionne en Bretagne,
ouais,
le chêne vert.
En fait, le chêne vert, moi, quand j'ai appris, c'était plutôt une plante qu'on voyait dans le sud de la France.
Ah oui, c'est pour ça.
Alors, j'ai découvert très récemment que des chênes verts, on en a des très très anciens, notamment à Audierne, sur un lieu qui était un ancien monastère, et donc il y a un bois classé, et du coup, il y a des chênes verts de 400 ans, quoi.
Ah oui, donc en effet.
Donc en fait, finalement, le chêne vert s'adapte très très bien dans le Finistère. Donc voilà. Donc on va pouvoir mettre des arbres de grand développement.
Quand on a la place, évidemment.
Quand on a l'espace, effectivement. Des arbres de moins grand développement, quand on a moins d'espace. Donc on va pouvoir mettre, quand on dit de petit développement, on est là, gros max, 15 mètres. Donc dans ce cas-là, on va avoir un choix énorme, quoi. Tout ce qui va être albizia supporte très bien la sécheresse. Tout ce qui va être... Paulownia, ça commence à devenir très grand, pour le coup. C'est un très très bel arbre qui fait des fleurs bleues. C'est un peu le seul... je crois que j'ai fait une chronique sur le Paulownia, il me semble, de mémoire.
Ah, je croyais qu'on disait Paulownia, mais bon... Enfin, c'est avec un W, c'est ça.
Ouais.
Ouais, ok. Paulownia.
Ouais.
Bon, ok.
Bah, en tout cas, c'est comme ça que...
Non, mais très bien. J'en sais rien.
Peut-être je me trompe.
Ouais. Et alors ça, ça reste quand même des arbres assez grands. quand on a vraiment un tout petit jardin, enfin c'est...
L'albizia, pas tant.
Ah ouais, d'accord.
L'albizia, c'est une dizaine de mètres maximum. Hein.
Mmh. Ouais,
ah ben sinon, on va appeler ça des arbustes, quoi.
Voilà.
Des arbustes non, mais c'est bien. Conduire en arbre.
Ça fait le boulot aussi, ouais. Hein, les arbustes. Puis ça fait brise.
Les boulots. Les boulots, c'est chouette aussi. Hein.
Ça fait brise-vent aussi.
Oui, oui, oui. On a tendance à croire que pour briser le vent, on va mettre des espèces de murs végétaux ou carrément des panneaux bois. C'est faux. Parce que le vent, quand il s'engouffre, il va tourbillonner. Et donc, du coup, on va créer un plus gros espace de vent. Et donc, ça aussi, ça a tendance à assécher le sol.
Donc il vaut mieux faire quoi ? Ouais.
Bah, mettre des arbres et des arbustes qu'on ne va pas forcément tailler à fond. Et donc, du coup, qui vont laisser... passer le vent, mais casser la vitesse.
Ah oui, qui ne sont pas forcément collés les uns aux autres en haies super, d'accord, super denses, mais plutôt des points de casse du vent.
Exactement.
Pour les tempêtes, notamment, parce qu'on en aura aussi de plus en plus des tempêtes.
Bah, oui. Et ouais. Ça, c'était la grande mode quand on a planté des haies de cyprès, parce que ça faisait des murs.
Quelle horreur.
En plus, ça devient gigantesque.
C'est moche. Puis ça vieillit mal. Ouais.
Bah, franchement, le cyprès... Un cyprès en soi, ça peut être très joli.
Oui.
Moi, j'ai vu des très, très beaux cyprès. Mais quand on fait des haies gigantesques et qu'on fait des choses de 15 mètres, non, c'est pas possible. Ça devient hideux. Ça se fragilise. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que c'est une porte ouverte aux maladies.
Eh oui.
De faire des haies d'une seule essence d'arbre, les haies monospécifiques. Donc... Non, mais t'es plusieurs variétés différentes. Ouais.
Bon, alors il nous reste 1:30. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fin ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Arrêtons de tondre au mois de mai.
Okay.
Ne tondez pas au mois de mai, c'est là qu'il y a le plus de fleurs dans le gazon. C'est là que, généralement, le sol se réchauffe. Et donc, du coup, si on stimule la pousse de la tonte, on va demander au sol de fournir plus de nutriments. Donc, on va épuiser le sol. On ne taille pas au printemps. On ne taille pas au printemps. Et même de manière générale, on va éviter de tailler maintenant des arbres. Tout a débourré. Hein. Les charmes sont déjà presque en fleurs. Les saules sont quasiment en fin de floraison.
Théoriquement, c'est jusqu'au 31 mars. Mais bon, en fait, c'est...
Bah, franchement,
faut arrêter maintenant. Quoi.
Bah, ouais. En fait, jusqu'au 31 mars, c'est parce que... Enfin, à partir du 31 mars, c'est plutôt par rapport à de la nidification. Mais en fait, pour la nature, quand on est en montée de sève... laisse la plante faire sa montée de sève tranquillement. Voilà. Comme si on surcoupait nos cheveux tout le temps.
C'est ça. Et ça nous évitera d'aller à la déchetterie, exactement, accessoirement.
Ouais, bon, tout à fait.
Et donc, des espèces à éviter, on l'a dit, bon, les lauriers pâles, enfin, tout ce qui pousse vite, c'est ça.
Ouais, tout à fait. Bah, les espèces invasives, hein. Les herbes de la pampa, le buddleia, on va éviter le laurier palme, les rhododendrons pontiques, l'aitriquette est maintenant considérée comme une plante invasive. Moi, je ne participerai pas à ce débat.
Ok, d'accord.
Mais ouais, on évite les plantes invasives et on évite les plantes qui ne sont pas du tout d'ici, quoi. Enfin,
et qui vont peut-être le devenir à force de réchauffement.
Oui, c'est ça. Mais ça, en fait, dans un souci de préservation de notre patrimoine de biodiversité. Peut-être on peut garder les plantes locales.
Merci beaucoup Marie.
Rien Véronique.
Voilà, nos jardins seront adaptés au changement climatique. On peut réécouter bien sûr cette émission et on espère qu'on reverra Marie Cultive très bientôt.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.